La ville de Marseille était encore endormie quand le condamné à mort, Abidal Jean Doubi, 28 ans, attendait son exécution assis sur une chaise pendant 20 minutes face à près de 30 personnes, aux fonctionnaires de police, face aux gardiens, ses avocats, Maître Pollack et Goudarot, face à la mort, ici, à la prison des Baumettes.
Le 9 septembre 1977, exécution capitale de Jean Doubi, sujet tunisien. À 15h, Monsieur le Président de la juridiction de Marseille me fait savoir que je suis désigné pour y assister. Réaction de révolte, mais je ne peux pas m'y soustraire. Je me prépare. Une voiture de police vient me chercher à 4h15 du matin. Pendant le trajet, nous ne prononçons pas un mot.
Abidal Jean Doubi, votre recours en grâce a été rejeté. Soyez courageux.
Abidal Jean Doubi, une toute dernière peine. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Yvon Croisier. Deuxième partie, le verdict.
L'homme qui a été guillotiné ce matin à 4h40 est un Tunisien coupable de l'assassinat d'une jeune fille commis, je cite l'acte d'accusation, avec torture et acte de barbarie, ainsi que du viol d'une adolescente de 15 ans et de violences commises avec préméditation sur trois mineurs. Il avait été condamné à la peine capitale par les assises des Bouches-du-Rhône le 27 février 1977 et était enfermé dans une de ses cellules.
Arrivé aux Baumettes, tout le monde est là. L'avocat général arrive le dernier. Le cortège se forme. Une vingtaine ou une trentaine de gardiens, des personnalités. On ouvre la porte de la cellule. J'entends dire que le condamné sommeillait, mais ne dormait pas.
Amita, tu dors?
C'est aujourd'hui?
Oui.
Maître Pollack a dit que Abidal Jean Doubi, je cite, n'a émis aucune protestation, n'a eu aucune mauvaise parole, il a fumé deux cigarettes, on lui a refusé une troisième. Le condamné avait été victime d'un accident du travail et en avait dû l'amputer d'une jambe. Ses avocats affirment que cette amputation a joué un très grand rôle sur le psychisme de leur client et ils estiment qu'on n'aurait pas dû l'exécuter.
On vous attend.
Bien. Il va falloir m'aider.
Tu veux quoi?
La chaussette.
On le prépare. C'est assez long car il a une jambe artificielle et il faut la lui placer. Nous attendons. Personne ne parle. Ce silence et la docilité apparente du condamné soulagent, je crois, les assistants. On n'aurait pas aimé entendre des cris ou des protestations. Le cortège se reforme et nous refaisons le chemin en sens inverse. Le cortège s'arrête. On assied le condamné sur une chaise. Il a les mains entravées derrière le dos par des menottes. Un gardien lui donne une cigarette à bout filtrant. Il commence à fumer sans dire un mot. Il est jeune, les cheveux très noirs, bien coiffés. Le visage est assez beau, des traits réguliers, mais le teint livide et des cernes sous les yeux. Il n'a rien d'un débile ni d'une brute. C'est plutôt un beau garçon.
Évidemment, en procès d'assises, vous le savez, toute l'information se refait oralement. Et à ce moment-là, vous voyez la réaction des uns, des autres, etc.
Eliane Perasso, avocate.
J'ai le souvenir de quelqu'un qui se montrait très détestable. Il n'était pas humble, il était arrogant. Et de l'autre côté, bon, je voyais sur le banc des parties civiles le visage absolument catastrophé des parents. J'ai vu surtout le père, M. Bousquet. Terriblement affecté, terrassé. Un homme qui, à l'époque, était relativement jeune, il devait avoir une cinquantaine d'années ou quelque chose comme ça, avec des cheveux noirs, très lisses. Et après le premier jour de l'audience, le lendemain, il avait les cheveux tout blancs. C'était saisissant. Tellement ce premier jour d'audience avait décrit les actes absolument abominables que Djandoubi avait fait subir à sa fille. Et puis vient la plaidoirie. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je n'ai aucun souvenir de ma propre plaidoirie. Aucun. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après une audience d'assises et après une plaidoirie, vous gardez dans la tête les mots de ce qui a été dit à l'audience. Comme une espèce de, comme ça, de rêve éveillé, sonore. Et ça dure plusieurs jours, plusieurs nuits, il faut dire. 2-3 nuits.
Quel était le climat, Jean-Jacques Anglade, lors de ce procès, vous vous souvenez ?
Oui, je me souviens du climat par rapport au président, M. Vuillet. Le jour où Amida Djandoubi a été condamné à mort, le matin, j'ai eu un incident avec le président de la cour d'assises. J'ai dû appeler le bâtonnier pour essayer de régler cet incident. Et textuellement, le président me dit, en présence du bâtonnier, « Maître Anglade, c'est pas grave, j'aurai sa tête. » J'appelle ça un assassinat légal. On est à 4 ans de l'abolition de la peine de mort, mais on est quand même en plein débat sur la peine de mort.
Les mêmes perfides, en fait, les ministres de la justice de l'époque, Giscard lui-même était pourtant abolitionniste.
Il se disait abolitionniste, mais du genre que messieurs les assassins fassent le premier pas. Je suis abolitionniste, mais je garde la peine de mort pour les assassins d'enfants. Dès lors que l'on dit « je suis mais », c'est le mais qui compte.
Concernant Djandoubi, comment expliquer que finalement on ait si peu parlé de cette affaire ?
On a très peu parlé de cette affaire, d'abord parce que les avocats, que ce soit Maître Goudarot pour Djandoubi, nous-mêmes pour les deux jeunes femmes co-accusées, les avocats des parties civiles, nous n'avons pas cherché à médiatiser. Et d'autre part, il n'y avait aucun ténor du barreau. Moi, j'étais un jeune avocat de 25 ans. D'autre part, Maître Goudarot, qui n'était pas un avocat pénaliste, pensait, semble-t-il, que son client ne risquait pas la peine de mort, parce que comme il avait perdu sa jambe, on allait lui faire grâce, en quelque sorte. Et Maître Goudarot, en même temps, étant lui-même partisan de la peine de mort, n'a pas plaidé le principe de la peine de mort, ce qui a permis par exemple à Maître Badinter de sauver la tête de Patrick Henry.
Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact.
Robert Badinter, 1981.
Et puisque vous avez prononcé tout à l'heure le nom de deux condamnés à mort et de deux exécutés, je vous dirai pourquoi. Est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui à Troyes criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice, « À mort, Buffet !» À mort bon temps, se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier la valeur dissuasive de la peine de mort.
Goudarot lui-même étant partisan de la peine de mort, n'a pas du tout discuté du principe de la peine de mort. Il a automatiquement supprimé la moitié des chances de son client de s'en sortir. Il a plaidé sur le problème de la culpabilité du proxénétisme. Djandoubi a tué Elisabeth Bousquet parce qu'elle l'avait accusée de proxénétisme. Or, elle a menti. Elle s'est prostituée volontairement. Il n'a pas forcé. Donc, elle est quelque part responsable. Donc, quelque part, Djandoubi avait raison, entre guillemets. En tout cas, il avait des raisons d'en vouloir Elisabeth Bousquet. Et ça, je m'en souviens parfaitement. Et c'était dur à avaler.
C'était sa défense.
C'était son axe de défense, voilà, principal.
Mais ce que j'espérais, c'est réussir le recours en grâce.
Jean Goudarot, 1981.
Parce que là, je savais que la peine de mort devait être abrogée à la rentrée parlementaire. Et je me disais, mais je suis le dernier. Donc on ne va pas me le condamner à mort, me le faire exécuter. Je suis pour la peine de mort parce que je trouve que, pour certains crimes, hein, attention, bon, pas pour tous, mais pour les trafiquants de drogue, les violeurs d'enfants, les casseurs, enfin les gros casseurs à répétition, oui, pourquoi voulez-vous que la société les conserve ?
Giscard n'a pas osé. Je suis désolé. Courage, Mida, courage.
Courage.
Il fume et se plaint tout de suite que ses menottes sont trop serrées. À ce moment, je vois entre les mains du bourreau qui se tient derrière lui, flanqué de ses deux aides, une cordelette. Pendant un instant, il est question de remplacer les menottes par la cordelette, mais on se contente de lui enlever les menottes. Et le bourreau a ce mot horrible et tragique. « Vous voyez, vous êtes libre !» Ça donne un frisson.
« Une autre, je peux ?»
Il fume sa cigarette, qui est presque terminée, et on lui en donne une autre. Il a les mains libres et fume lentement. C'est à ce moment que je vois qu'il commence vraiment à réaliser que c'est fini. Qu'il ne peut plus y échapper. Que c'est là. Que sa vie, que les instants qui lui restent à vivre, dureront tant que durera cette cigarette.
L'affaire d'Amida John Doubi n'a pas été connue. Ça a été vraiment une affaire locale à Marseille. Donc c'est le Provençal, le Méridional qui en ont parlé.
Jean-Yves Le Naour, historien.
La situation de l'avocat Jean Goudarot n'était pas simple parce que ou bien on médiatise l'affaire, mais c'est une attitude qui peut être très dangereuse parce qu'en agitant l'opinion, on agite aussi les partisans de la peine de mort. Et puis Jean Goudarot était un homme de droite qui était favorable à la peine de mort. Donc il ne pouvait pas utiliser l'argument de « je vais combattre la guillotine ». Impossible d'utiliser la stratégie de Banater. Donc Amida John Doubi a pâti, sans aucun doute, de la stratégie de son avocat, stratégie minimaliste. Et puis Jean Goudarot n'était pas le bon avocat, c'est-à-dire qu'il n'était pas pénaliste. Il ne plaidait pas dans les cours d'assises. Et il a été véritablement un amateur. C'est terrible ce qui s'est passé lors du procès de Jean Doubi le 24 et 25 février. Il est même arrivé le 25 février avant sa plaidoirie en retard parce qu'il y avait des embouteillages. Et alors vous imaginez, toute la cour est là, les jurés, le public, et on s'impatiente. Et à un moment donné, le juge dit « bon, je crois qu'il s'est adressé à Maître Anglade hein, en disant « bon, bah, vous allez le remplacer, vous allez... » Non, mais Maître Anglade dit « c'est pas possible. » Voilà, oui, la situation. Et quand il arrive, il se plaint en disant « oh, il y a des embouteillages, c'est plus possible, on ne peut plus circuler. » Enfin, c'était le cirque. Il a tout parié, tout misé, Jean Goudarot, sur la jambe. C'est d'ailleurs comme ça que Jean Doubi avait rencontré Jean Goudarot. Il avait été son avocat pour réclamer une pension parce que c'était un accident de travail. C'était un salarié agricole qui a perdu sa jambe, broyé dans un motoculteur. Et il a tout parié là-dessus. Il a fait des jeux de mots en faisant référence à un jeu à l'époque qui était très populaire, la tête et les jambes. On lui a déjà coupé la jambe, on va quand même pas lui couper la tête. Mais enfin, c'était pas un niveau de plaidoirie, c'était une blague, c'était pas du niveau, c'était pas du Badinter.
La deuxième cigarette est terminée. Il s'est déjà passé près d'un quart d'heure. Un gardien, jeune et amical, s'approche avec une bouteille de rhum et un verre. Il demande au condamné s'il veut boire et lui verse un demi-verre. Le condamné commence à boire lentement. Maintenant, il a compris que sa vie s'arrêterait quand il aurait fini de boire. Cet homme va mourir. Il est lucide. Il sait qu'il ne peut rien faire d'autre que retarder la fin de quelques minutes. Et ça devient presque comme un caprice d'enfant qui use de tous les moyens pour retarder l'heure d'aller au lit. Un enfant qui sait qu'on aura quelques complaisances pour lui et qui en use. Le condamné continue à boire son verre lentement. Par petites gorgées.
Dans l'imprimerie où il travaille, Marcel Chevalier, le bourreau.
1980.
J'ai rien à dire. Interdiction du ministère.
Et qu'est-ce que vous pensez sur la peine de mort?
Rien du tout.
Non, mais je veux dire, il faut la supprimer ou pas?
Moi, je ne suis qu'un homme qui obéit aux ordres.
Oui, non.
Écoutez, si on a condamné un quatrième type à mort, c'est que les gens en ont plein le cul des assassins, c'est tout. Parce que vous, un jour, même vous appelant sans chaise et étant où vous êtes, un soir, vous allez rentrer tard, vous vous ferez oxyre. Et on trouvera des excuses à celui qui vous a oxyre. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Moi, j'en ai rien à foutre, mais... Vous savez, fais mon travail, comme je fais mon travail ici. La seule différence, c'est que je travaille deux fois. Alors la seule chose que vous pourrez mettre dans votre machin, c'est qu'on n'est pas des feignants, c'est tout.
Quelle heure?
4h40.
C'est possible, une autre. Une gitane, plutôt, si quelqu'un...
Il fallait y penser avant. Je regrette.
Refuser une cigarette à un condamné. Est-ce que le bourreau est comptable aussi, ou tabacologue?
Exécuteur en chef des hautes œuvres de la République, monsieur. Pas bourreau.
Le bourreau, c'est lui.
Il s'est écoulé environ 20 minutes depuis que le condamné est assis sur la chaise. 20 minutes si longues et si courtes. On a été patient. On a attendu 20 minutes debout, alors que le condamné, assis, exprime des désirs qu'on a aussitôt satisfaits. On l'avait laissé mettre du contenu de ce temps, c'était sa chose. Maintenant, une autre réalité se substitue à ce temps qui lui était donné. On le lui reprend. L'un des aides du bourreau sort prestement une paire de ciseaux de la poche de sa veste et commence à découper le col de la chemise bleue du condamné. Le bourreau fait signe que l'échancrure n'est pas assez large.
Plus large.
Alors, l'aide donne deux grands coups de ciseaux dans le dos de la chemise et dénude tout le haut du dos. On met le condamné debout. Les gardiens ouvrent une porte dans le couloir. La guillotine apparaît face à la porte.
La peine de mort, finalement, vous voyez à quoi ça tient la vie d'un homme. Ça tient à la qualité d'un avocat, qui est plus brillant ou moins brillant. Ça tient à la qualité d'un procureur, hein, qui lui aussi se fait fort d'obtenir la tête du prévenu. Ça tient à l'opinion publique, hein, qui est là, qui fait pression sur les jurés. Il y a un certain nombre de facteurs qui pèsent dans un procès et qui n'ont absolument rien à voir avec l'affaire en tant que telle.
Vous parlez de loterie, d'ailleurs, dans votre livre, Jean-Yves Le Naour.
Oui, je parle de loterie. La justice, c'est un petit peu une loterie, parce que selon qu'on est jugé à Lille, à Rennes ou à Aix-en-Provence, on ne sera pas jugé de la même façon. Et cette loterie, elle a été démontrée en 1959 par Pierre Bellemare, qui à l'époque travaillait à Europe 1. Et il a voulu faire une expérience, il a pris une histoire vraie et il l'a distribuée avec le soutien du ministère de la Justice pour faire une expérience. Il l'a donnée à la cour d'Aix-en-Provence, de Clermont-Ferrand, de Rennes, etc., etc. Et on a réuni des jurys d'assises pour se prononcer sur le cas. Et bien figurez-vous qu'ici il avait 20 ans, ici c'était la perpétuité, ici c'était la peine de mort. Bon, la preuve était faite que... on n'est pas jugé de la même façon selon la qualité de son avocat, selon le procureur, selon les magistrats qui sont là, selon les jurés, selon l'opinion publique, etc. etc. Et c'est quand même grave quand on juge quand même quelqu'un à la peine capitale.
Moi, je trouve qu'on a trop tendance à voir dans abolition, exécution, non-exécution, une loterie.
Denis Salas, magistrat.
Je rappelle simplement que nous sommes... Quand Aminat Djandoubi est exécuté, nous sommes après le fait que Patrick Henry échappe à l'exécution capitale grâce à cette fameuse plaidoirie de Robert Badinter. Mais nous sommes, et c'est ça le point important, nous sommes à un tournant historique. Parce que nous sommes à la fin d'une période d'après-guerre, où, vous savez, dans l'après-guerre, on avait donné à la peine une mission d'humanisation, d'amendement, de resocialisation. Les réformes à mort de l'époque, c'était un grand mouvement d'humanisme pénitentiaire. Mais dans le tournant des années 75, après la guerre d'Algérie, eh bien, effectivement, le durcissement du régime pénitentiaire est extrêmement fort. On invente, à cette époque-là, les peines de sûreté. C'est une époque où, effectivement, un ministre, Alain Peyrefitte, fait voter une loi sécurité et liberté qui veut, effectivement, déjà se défier du laxisme des juges et de faire voter des peines fixes. Donc on avait déjà ce durcissement-là. Donc le moment où se situe le cas de Djandoubi, c'est un moment où, d'une part, les politiques sont partagées, à droite comme à gauche, avec des hésitations. Giscard d'Estaing disait « oui, mais pour les violences inadmissibles, quand même, faut pas, etc. » Il avait affirmé des convictions abolitionnistes, et puis en même temps, il avait reculé dans certaines hypothèses. Donc une période d'hésitation, de transition, avant l'abolition de 81. Et puis le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est dans la magistrature elle-même. Parce que la magistrature elle-même est divisée.
On est à Marseille dans le contexte des années 70 où il y a eu toutes ces ratonnades. Il y a même une bombe qui a explosé au consulat d'Algérie. Hein, donc c'était très violent. Et on s'aperçoit que sur les 21 derniers condamnés à mort, pas exécutés, mais les derniers condamnés à mort, 7 sont arabes. Et donc c'est quand même un tiers. Et donc on peut se poser la question. Et à partir du moment où on se pose la question, ça rend encore plus illégitime, encore plus insupportable la peine de mort.
Jean-Yves Le Naour.
Il y a une presse dans les années 70 à Marseille, qui est notamment le Méridional, qui est un journal d'une droite très dure, et qui considère que, il y a trop d'Arabes, trop de criminels, que les Arabes sont tous des criminels, des violeurs, des assassins en puissance. On a quasiment un discours qui ressemble beaucoup à celui qui était ceux des colons, finalement, des pieds noirs en Algérie, où c'est la force qui doit impressionner les individus. Donc oui, l'affaire Jean Doubi a permis de réactiver tous ces thèmes, les thèses de l'extrême droite.
Et l'opinion publique aussi est plutôt favorable toujours à ce moment-là à la peine de mort.
L'opinion publique est favorable à la peine de mort depuis 1971-1972, en fait depuis la prise d'otage de Clairvaux. Mais vous savez, l'opinion publique, c'est du vent. Avant cette prise d'otage de Clairvaux, de Buffet et Bontemps, qui ont d'ailleurs été condamnés à mort et exécutés, l'opinion était abolitionniste. D'ailleurs, Pompidou inaugure son mandat en graciant les condamnés à mort qui sont en prison. Et vous voyez comme les choses se retournent avec un fait divers terrible, la prise d'otage à Clairvaux d'une infirmière, d'un surveillant qui seront exécutés par ces deux prisonniers, Buffet et Bontemps. Ça montre une chose, c'est que l'opinion, elle est instable.
Tout va très vite. Le corps est presque jeté à plat ventre. Mais à ce moment-là, je me tourne. Non par crainte de flancher, mais par une sorte de pudeur. Je ne trouve pas d'autre mot. Instinctive, viscérale. J'entends un bruit sourd. Je me retourne. Du sang. Beaucoup de sang. Du sang très rouge. Le corps a basculé dans le panier. En une seconde, une vie a été tranchée. L'homme qui parlait moins d'une minute plus tôt n'est plus qu'un pyjama bleu dans un panier. Un gardien prend un tuyau d'arrosage. Il faut vite effacer les traces du crime. À 5h10, je suis chez moi. J'écris ces lignes. Monique Mabelli. Il est 6h10.
Monique Mabelli, le jour de l'exécution, c'est le 9 septembre 1977, rentre chez elle, il est 5h10, et elle finit ce texte à 6h10. On est dans une précision factuelle absolue.
Denis Salas.
Elle est elle-même abolitionniste, moralement, en conscience, mais elle doit obéir à l'injonction que lui fait sa hiérarchie. Et son président lui dit « Vous devez assister à l'exécution » pour éventuellement recevoir les déclarations ultimes du condamné. Moi qui suis historien de la justice, je me souviens que, au Moyen-Âge, sous l'Ancien Régime, l'Église déléguait en quelque sorte à un clerc le soin d'être présent au pied du gibet pour recueillir éventuellement l'aveu ultime du condamné à mort afin qu'il puisse accéder à un rang un peu plus décent lors de la vie éternelle. Donc il y a là effectivement un aspect procédural, mais il y a aussi cet arrière-plan historique qui me semble présent dans cette injonction. Donc elle obéit et en même temps, que va-t-elle faire? Elle va prendre une posture qui est la posture du témoin. C'est un témoin à la fois visuel et en même temps auditif. Elle entend et elle voit. Mais il y a un moment inédit qu'elle découvre, là encore, c'est qu'effectivement, le condamné a droit à des faveurs. Fumer une cigarette, fumer deux cigarettes, une troisième lui sera refusée, et il boira même une gorgée ou un verre de rhum. Faut-il lui accorder quelques miettes d'humanité pour ne pas l'envoyer à la guillotine comme une bête à l'abattoir? Elle se pose quand même la question, même si elle ne le formule pas de cette manière. Et puis, il y a ce moment qui m'a beaucoup frappé dans son écrit, qui est cette sensation qu'au moment de la dernière cigarette, le condamné a un tressaillement. Elle sent quelque chose. Et l'homme, allume à son tour, sent que c'est fini, que c'est son dernier instant. C'est comme un caprice d'enfant qui, finalement, demande encore à jouer avant d'aller se coucher. Ce n'est plus la bête d'aveu, la bête qu'on en conduit à la mort. C'est l'homme, dans son histoire, dans son trajet, dans son parcours, qu'elle ressent, en quelque sorte, dans un éclair, dans un instant. Et elle est, là encore, un témoin aigu de la scène. Et là, alors, elle détourne le regard, parce que l'homme s'avance vers la guillotine, elle le détourne le regard non pas par honte ou par gêne, dit-elle, mais par pudeur devant l'indécence de cette scène. Et peut-être c'est aussi une manière de se révolter par ce détournement. Et elle entend, on retrouve le témoin auditif, elle entend le bruit de la hache qui tombe et le bruit du sang qui coule. Et là, à la fin, et c'est très intéressant à la fin, on retrouve ce leitmotiv, je trouve, de son écrit, qui est l'effacement des traces. C'est-à-dire qu'à la fin, elle voit l'entrée en scène des tuyaux d'arrosage, et donc le nettoyage, l'effacement des traces. Donc le témoignage de Monique Mabelli, c'est un récit certifié. C'est elle qui dira « J'y étais, j'ai vu, j'atteste ». Ça, c'est le premier point, témoigner de quelque chose. Mais en même temps, elle témoigne à quelqu'un. C'est la transmission. Donc, c'est un écrit autobiographique qui restera secret, mais à un moment donné, elle le transmet à son fils, qui le transmettra ensuite à Robert Badinter, qui le transmettra ensuite à l'école de la magistrature, pour aider à la formation, à la réflexion des magistrats. Donc témoigner de quelque chose, mais témoigner à quelqu'un. Et puis le troisième élément, c'est témoigner pour une cause. Je pense qu'elle témoigne pour l'abolition, elle fait mémoire de l'abolition. Quelque part, Amida Jean Doubi, c'est le dernier condamné à mort.
Amida Jean Doubi, une toute dernière peine. Avec Eliane Perasso, avocate, Jean-Jacques Anglade, avocat, Jean-Yves Le Naour, historien, et Denis Salas, magistrat, président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Lecture du texte de Monique Mabelli, Anne Cresson. Extrait du film Le dernier raccourci de Peter Dourounzis, une production Année Zéro. Archivina, Camille Vigneault, Emmanuela Debussy. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Yvon Croisier.